L'objectif est d'identifier, faire connaître et dénoncer les conséquences des politiques migratoires européennes sur les conditions de vie et le respect des droits des personnes en migration tout au long du parcours d'exil, ainsi que l'externalisation des contrôles migratoires et de l'asile pratiqués par l'Union européenne et ses États membres. Nous avons choisi de traiter des frontières, car les frontières sont au cœur des politiques migratoires. Les chemins de l'exil sont terriblement meurtriers. Selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, plus de 60 000 personnes sont mortes ou disparues sur les routes migratoires entre 2014 et septembre 2024. Un chiffre en constante augmentation. 2023 a été l'année la plus meurtrière, avec 8 600 personnes migrantes mortes ou disparues. Mais il faut savoir que ces chiffres sont incertains et ne reflètent qu'une partie de la réalité. Le nombre réel de décès sur les routes migratoires reste inconnu. La grande majorité des corps des personnes décédées en migration, lors d'un naufrage notamment, ne sont jamais retrouvés. 70 à 80% selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La volonté de protéger les frontières passe avant la protection des vies humaines. C'est cette logique qui est mise en œuvre avec le nouveau pacte européen sur l'asile et la migration adopté en avril 2024 par le Parlement européen et qui entérine une grave régression de droits fondamentaux des personnes migrantes. Ce pacte s'inscrit dans une logique inquiétante de tri, enfermement, exclusion, une logique raciste qui s'éloigne du droit international mais aussi des valeurs et des droits fondamentaux que l'Union européenne s'est elle-même fixée. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Christina pour nous parler très concrètement de ce qui se passe aux frontières.
Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup d'être si nombreuses et si nombreux dans cette salle. Je n'aurais pas attendu à ça. Je vais juste, Arlette, tu me permets de dire une petite chose. Le décompte des morts aux frontières européennes, les fameuses 60 620 personnes, ce n'est pas du tout l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui est en réalité contre les migrations. Mais c'est une petite ONG qui s'appelle United for Intercultural Action et qui se trouve aux Pays-Bas et qui depuis 30 ans, grâce à une personne qui s'appelle Gert Hatt, elle fait ce décompte macabre aux frontières et c'est pas du tout l'Organisation internationale des migrations. Surtout que l'Organisation internationale pour les migrations est vraiment contre les migrations.
Bon, autant pour moi.
Non, mais c'est pas grave. Mais juste parce que aussi qu'ils font vraiment un travail incroyable à United, et donc c'est vraiment très bien de les remercier aussi pour le travail. Un travail que je vais reprendre probablement parce qu'il m'a passé le relais, Monsieur Gert, que je remercie. Donc merci beaucoup d'être là si nombreuses et si nombreuses. Merci aux associations qui ont œuvré pour remplir la salle ce soir. Merci de m'accueillir ici, merci de m'accueillir ce soir et cette nuit dans ce village, dans cette petite ville. Je vais m'asseoir et peut-être je vais me lever tout à l'heure. Je vais un peu faire jongler entre les deux. Juste pour vous dire, donc, alors effectivement, moi, depuis quelques années, je travaille sur les morts aux frontières en particulier, et sur les morts aux frontières alpines. J'ai essayé de dresser un bilan de combien de personnes sont décédées en tentant de traverser une des frontières alpines, donc depuis la Slovénie jusqu'à la France, hein, tout le massif alpin, parce qu'il n'y avait pas ce chiffre, et donc on est encore en train de chercher. Mais je voulais ce soir faire un peu un travail peut-être un peu pédagogique quel est le lien entre migration et frontières, quel est le lien entre migration, frontières et mort aux frontières, et un peu comprendre les logiques géo-historiques qui font que aujourd'hui on se retrouve à voir autant de personnes qui décèdent aux frontières, comme tu disais, hein, c'est le chiffre qu'on connaît et que c'est juste la pointe de l'iceberg, c'est 60 000 à 620 personnes qui sont décédées depuis 1900, laissez-moi faire la Suisse, 93. Comme ça vous savez d'où je viens. Donc je vais un peu décortiquer ce lien qui ne va pas vraiment de soi. Ça s'est construit en fait, ce lien entre migration, frontières, ce qu'on peut dire fermeture des frontières et mort aux frontières. Et donc, on va partir du monde d'hier. Je pense que les personnes qui sont dans la salle vont savoir de quoi je parle quand je parle du monde de hier, hein, au monde d'aujourd'hui. Et le monde de hier, c'était le monde, évidemment, hein, de Stefan Zweig, qui écrivait, et c'était en 1942, ce livre a été publié posthume, parce qu'il s'est suicidé en Amérique latine. Oui. Et donc, dans ce livre, il dit dans un paragraphe, avant 1914, la Terre avait appartenu à tous les hommes. Bon, il n'avait pas inclus les femmes, mais c'est pas grave. Chacun allait où il voulait et il demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permission, point d'autorisation. Et je m'amuse toujours de l'étonnement des jeunes quand je leur raconte qu'avant 1914, je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un. Vous voyez, ça, c'est le monde d'hier, qui est un peu un monde d'une certaine classe sociale. Hein. Pas tout le monde pouvait aller en Inde et revenir à son problème. Mais quand même, on pouvait voyager effectivement plus librement. C'était ce monde-là, en fait. Hein. C'était l'utopie d'un monde sans visa. C'était un monde comme on pourrait le voir ici, où il y a les frontières, où les frontières sont tracées, mais en réalité, les frontières sont ouvertes et donc on peut passer d'un pays à l'autre. Et le monde d'aujourd'hui, en fait, et là c'est une carte de Philippe Rekachevitz, avec qui j'en parlais ce soir. Ouais, voilà, donc un ami cartographe. Et qui est le monde d'aujourd'hui, vous voyez, c'est un monde qui se referme. C'est ce que Philippe appelle, c'est une sanctuarisation du monde riche, qui met, comme ça, vous voyez, comme des ongles et des griffes, comme ça, sur la partie du monde qui est plus pauvre. Et ces obstacles, cette ligne noire avec des dents, noire, rouge avec des dents, est une ligne et une sanctuarisation qui s'opère à travers, en tout cas, deux mécanismes, à la fois des obstacles législatifs. Hein, on met, par exemple, les visas en place. C'est nouveau. Hein, vous avez probablement connu le moment où il n'y avait pas la majorité des personnes dans la salle, où il n'y avait pas besoin de visa pour traverser la Méditerranée. Et des obstacles physiques. Donc, il y a ces deux mécanismes, à la fois des obstacles législatifs et des obstacles physiques qui sont érigés. Et on va voir un peu comment on est arrivé là, en fait. Et parce que c'est, comme je le disais, un peu un processus, un mécanisme qui s'est construit dans les années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le monde d'hier de Stefan Zweig et le monde d'aujourd'hui tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Il y a eu deux guerres mondiales, d'accord, entre le moment dans lequel ces mots étaient écrits et puis lui avant, mais bon, bref quoi. Il y a eu deux guerres mondiales et il faut vraiment passer par l'histoire pour comprendre la géographie d'aujourd'hui. Et le système qui s'est construit au fil de l'histoire, c'est des systèmes qui ont été pensés suite à la deuxième guerre mondiale pour protéger les personnes. Donc en fait, il y avait une mise en danger des personnes qui fuyaient et on voulait plus reproduire ce qui s'était passé pendant la Shoah durant la deuxième guerre mondiale. Et donc on a mis en place différents instruments pour trouver ces moyens de protection des personnes qui ont fui. Alors les différentes périodes de troubles de l'histoire, hein, il y a eu effectivement la Deuxième Guerre mondiale et les Juifs qui n'ont pas trouvé de protection aucunement en Europe et ont dû, quand ils ont pu partir au-delà du continent européen. Il y a aussi avant la révolution d'octobre, la révolution soviétique, où là aussi il y a eu plein de personnes qui sont parties chercher protection ailleurs. Rappelez-vous bien que ces mécanismes-là ont été pensés pour protéger les personnes. D'accord ? Donc, à la base, c'est pour se dire comment on va faire. Et les prémices, c'est un peu, vous avez certainement entendu parler du passeport Nansen, qui a été mis en place par ce monsieur, qui était un explorateur et un diplomate norvégien, qui s'appelait Fridtjof Nansen. Et c'est un peu le premier document officiel qui a reconnu le droit à une protection à des personnes qui fuyaient des persécutions à l'époque. Et notamment, il y a beaucoup de la communauté arménienne, par exemple, hein, dans les familles arméniennes, il y a ce passeport Nansen qui a tenu très précieusement dans les mains des personnes qui ont pu l'obtenir. Et ce qui est assez intéressant et ce qui change beaucoup par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette protection-là était donnée à des collectifs, à des groupes. On recevait la protection, on recevait le passeport Nansen pour permettre de voyager de pays en pays pour arriver enfin en France, par exemple, pour les Arméniens, juste en disant qu'on était Arménien, qu'on était russe à l'époque. Donc c'était une protection collective. La nationalité, le pays d'origine, était suffisant pour pouvoir obtenir cette protection. Aujourd'hui, vous savez très très bien, hein, vous êtes, je pense, tous et toutes actifs, notamment de près ou de loin dans le droit d'asile, c'est un récit individuel qu'on demande. On a changé de régime, si vous voulez, ou de manière de procéder. Le lien entre migration et frontières, protection et frontières, on l'a déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas l'article 14, vous savez, il dit devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Et donc, vous voyez que le lien entre migration, frontières, protection est là, parce qu'on peut recevoir une protection dans d'autres pays. Donc il faut sortir de son propre pays pour avoir cette protection. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est précédé, et ce n'est pas pour rien, de l'article 13. Hein? Donc l'article 13, donc le 14 donne droit à une protection quand vous êtes dans un autre pays. L'article 13 vous dit que... Et je reprends les ça fait chaud au cœur quand je vois Marie-Claire Kuntz qui était une collègue quand j'étais à Genève dans l'association Vivre Ensemble et qui a écrit ceci dans l'esprit des rédacteurs de l'époque, donc de l'époque de la déclaration. On était conscient que ne pouvait donner une définition du réfugié impliquant un passage de frontière sans par ailleurs traiter de la question du passage de la frontière elle-même. Donc la liberté de circuler a été inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de manière significative avant l'article qui porte sur le droit de demander l'asile. Hein? Et donc vous avez ces deux, comme je vous disais tout à l'heure, ces deux éléments. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur de l'État. Et toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? Ah, à part ne pas l'appliquer. On vous dit qu'on peut sortir.
C'est pas les limites.
Mais on ne vous dit pas que vous avez le droit de rentrer quelque part. Et le monde est divisé en États nationaux qui sont contigus. Donc si vous pouvez sortir, mais que personne ne vous donne la possibilité de rentrer quelque part, eh bien, il y a un problème. Okay. Et c'est bien pour ça d'ailleurs. Voilà. Donc, cette question de l'inscription du droit de rentrer dans un pays était pensée à ceux qui, à l'époque, avaient pensé à la Déclaration des droits de l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a eu un clash en fait entre des visions différentes, et notamment c'est là la vision souverainiste de l'État-nation qui a gagné le dessus. Ce problème a été en partie résolu par la Convention de Genève, donc la Convention sur la protection des réfugiés de 1951. Et c'est un nouvel article qui a été mis un nouveau instrument qui a été mis en place, donc en 1951. C'est effectivement après, comme je le disais, après la Deuxième Guerre mondiale et après la conférence des Vians, hein, qui a été un peu la conférence qui a un peu choqué tout le monde, parce que justement ça n'a pas permis de protéger les juifs en errance sur le territoire européen. Et donc c'est aujourd'hui l'instrument qui fait foi, hein, qui a été adopté aussi dans les législations nationales avec pratiquement la copier-coller du texte de la convention dans les législations nationales. Qu'est-ce que nous dit la Convention sur les réfugiés? Ben, avant tout, dans l'article 1, elle définit ce que c'est qu'un réfugié. Et ça, vous connaissez la définition. Je vais juste attirer l'attention encore une fois sur la question de la frontière. et dit en fait, c'est pour toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de ces 5 motifs de l'asile, hein, et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Donc là aussi, on doit sortir de son propre pays, mais ce qui est logique, hein, on doit sortir de son propre pays pour demander l'asile. Donc il y a cet article-là, et puis il y a le très célèbre et le très contraignant, qui devrait être très contraignant, article 33 de la même Convention de Genève, qui est l'interdiction du refoulement, le non-refoulement. Donc c'est un principe qui est contraignant et qui dit qu'aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit les personnes réfugiées qui de fait de ces 5 raisons ont des craintes de sur leur vie. Ok, donc qu'est-ce que ça signifie ça? Et ça c'est très important, ça signifie en fait que les États sont souverains, et c'est une des priorités et des prérogatives de l'État national, sont souverains dans la décision de qui entre et qui sort de son propre pays. Les États-nations ont cette prérogative. Sauf si une personne se présente à la frontière, et je dis bien se présente à la frontière, ça veut dire que cette personne fait le petit pas de l'autre côté de la frontière, d'accord ? Donc il y a besoin de ce mouvement physique, d'accord ? Et qui arrive dans votre territoire et qui lève le petit doigt et dit « j'ai besoin de protection ». Dans ce cas-là, il y a la souveraineté de l'État passe en deuxième plan par rapport au droit international et ce principe contraignant de l'article 33. Et comme le dit une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Donatella di Cesare, qui est une philosophe italienne, et je pense que ses livres malheureusement ont été traduits en anglais. Donc moi je les ai lus en italien, ils ont été traduits en anglais mais pas en français. Donatella di Cesare dit: les droits du migrant, et en particulier sa liberté de mouvement, se heurtent à la souveraineté étatique exercée sur la nation et la domination territoriale. C'est le conflit entre les droits humains universels et la division du monde en états-nation à laquelle on se confronte aujourd'hui. Et c'est aussi le conflit qui existe entre mouvement et fixité. Comme le dit Rhys Jones, qui est un géographe, là je l'ai laissé en anglais, je ne sais pas pourquoi, je vais vous le dire en français. Dans ce livre qui a été traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle en français je sais plus, mais en anglais c'est Violent Borders, frontières violentes, mais je sais pas si ça a été traduit comme ça. Et il dit en fait dans la présentation du livre, Violent Borders, les frontières violentes, théorise le mouvement et la fixité comme un conflit entre les désirs de liberté et le désir du contrôle, entre les personnes qui se déplacent et celles qui veulent qu'elles restent en place. Et ce qui nous dit un autre philosophe, Nicola De Genova, nous dit, en fait, après tout, s'il n'y avait pas de frontières, il n'y aurait pas de migrants, seulement de la mobilité. Hein, et on sait qu'aujourd'hui, la mobilité est quand même quelque chose de très apprécié et qui est mis en avant. Donc, si je résume, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là, mais si je résume, deux conditions pour pouvoir prétendre à un statut de réfugié, à prétendre à l'asile. Être sorti d'un pays et être sur le sol du pays où on veut demander l'asile. Vous êtes d'accord ? Il y a une obligation, c'est le principe de non-refoulement. Quel est le résultat selon vous ? Que vont faire les États du coup ?
Refouler.
On refoule avant, mais c'est un peu difficile de refouler avant. Parce que comment est-ce que tu fais pour refouler avant si la personne n'est pas là ? Hein ? Ah mais non, oui, on n'accorde pas l'asile, non, parce que la personne n'est pas arrivée.
On paye des pays tampons, là.
Hein ?
On paye des pays tampons pour faire le job à notre place.
On essaye de faire... Vous vous rappelez ce que je vous ai fait là ?
Oui.
On essaye que ce petit pas-là ne soit pas fait.
Et, oui.
Et donc on essaye d'agir le plus tôt possible, parce que du moment dans lequel vous mettez un pied, vous avez des droits. Alors en fait, si vous ne voulez pas accorder des droits, après il y a d'autres moyens pour empêcher les droits quand on est dans un pays, on est d'accord.
Oui, il y a d'autres moyens.
Mais la première action qu'on essaye de faire,
c'est ça. C'est de ne pas faire le petit pas au-delà de la frontière et d'arriver chez nous.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, du coup, vous comprenez pourquoi on construit des murs.
C'est parce que si on fait le petit pas, on a des droits. Sauf, après, il y a des pays qui s'amusent. Il y a des pays qui disent, en fait, les 7 km entre la frontière et l'ENA, c'est pas vraiment chez nous. L'Australie a eu une loi exceptionnelle, avec un nom exceptionnel, ça s'appelle la loi de l'excision territoriale.
Ah oui.
L'excision. Vous voyez ce que ça veut dire?
Mais en fait, ils ont décidé que tous ceux qui arrivent en bateau, ce n'est pas vraiment le territoire australien.
Ah oui.
Donc, qui est illégal dans l'histoire? C'est ceux qui arrivent ou ceux qui font l'excision? Donc, comment on fait, hein? C'est ce que je vous disais au début, c'est on essaye de...
le plus tôt possible, parce que dès qu'on fait un petit pas, on s'approche de plus en plus, mais le plus tôt possible de dire « elle ne vient pas ». Et on le fait à travers des lois, on le fait aussi à travers des obstacles physiques, comme les murs,
qui, on le sait très bien, n'empêchent pas le passage du tout. Mais on construit un piège territorial, d'accord? Un piège, je suis géographe, c'est pour ça que je me dis. Donc on fait, et puis on fait ça, d'accord? Et en fait, ce piège territorial se fait à différents niveaux.
Parce qu'on peut essayer d'empêcher de partir. Mais les gens sont quand même têtus, hein. Ils partent quand même. Et donc ils partent quand même, il faut empêcher d'avancer. Et puis, s'ils avancent quand même, on empêche quand même de faire en fait, le dernier petit pas quand même. Hein. Ça, on essaie de l'éviter au plus.
Et donc, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre, des processus qui sont pensés. Parfois, ça va de l'imagination pure, hein, cette idée de l'excision territoriale. Il fallait l'imaginer, cette histoire. Où on voit qu'il y a une progressive, et là, c'est encore Philippe, rattachez vite ses cartes, une progressive fermeture des pays riches. Et là, vous voyez que, je ne sais pas, mais est-ce que vous vous rappelez, hein, les gens qui sont dans la salle, quand il y a 30, 40 ans la Méditerranée est un espace ouvert.
Oui.
En fait, on prenait un ferry pour arriver en France. On allait même chercher des gens. Hein. Ça nous faisait du bien. D'accord. Et donc, c'était un peu la première carte. Hein. C'était avant les chocs pétroliers, un espace qui était ouvert. On allait, on partait, on repartait. Alors, c'était pas toujours la joie à la bonne humeur. Hein. C'est pas toujours facile. Mais à cette époque-là, on ne voyait pas de cadavres en Méditerranée. Il n'y en avait pas. Ah, c'était peut-être, encore une fois, la vie n'était pas toujours facile, mais au moins on ne mourait pas.
Et puis on commence petit à petit, après les chocs pétroliers, à fermer un petit peu la Méditerranée, à faire un bloc de la Méditerranée. Et on ne peut plus passer comme ça facilement, on doit commencer à demander des visas, les visas ne sont pas vraiment accordés. Et puis il y a un moment dans lequel, je vais revenir là-dessus aussi, on l'introduit, et ça c'est vraiment un passage important, on fait faire le rôle de garde frontière aux hôtesses de l'air et de la terre dans les aéroports. En fait, on met des sanctions aux compagnies aériennes qui amènent des personnes dans leur avion qui sont soi-disant des sans-papiers ou des personnes qui n'ont pas les papiers nécessaires pour voyager.
Et on oblige en fait les personnes à prendre des chemins qui sont clandestins et donc plus dangereux. Et on voit, c'est un très cher ami Philippe,
donc on voit cette carte, vous voyez qu'il y a en tout cas 3-4 choses là sur cette carte. Bon, il y a l'Europe et l'Afrique du Nord et un paquet de l'Asie, et il y a en fait 3 frontières. Parce que la frontière n'est pas une ligne. La frontière, c'est une zone, c'est des points. La frontière, c'est sur le corps de certaines personnes. Je ne vais pas trop aborder la question du racisme, mais la frontière aujourd'hui est sur le corps des gens. Quand on contrôle les personnes à Montgenèvre, hein, à la frontière entre l'Italie et la France, on les contrôle au massif. Ou alors, soit c'est la couleur de peau, ou c'est la couleur des habits, les habits fléchis des années 80, hein. Ça peut être que des choses qui ont été données par les associations sur place. Mais là, vous voyez en fait 3 frontières, on va dire, là, on essaye d'appeler avec Philippe Rekachevitz la pré-frontière, la frontière et la post-frontière.
La presbytère, est cette ligne-là, rouge, pas très bien délimitée, qui passe au milieu du désert, qui passe toujours plus bas d'ailleurs. Là c'est... On peut aller jusqu'au Sénégal. Et c'est là où il y a déjà des gardes frontières européens, au milieu du désert, où on oblige certains pays à suivre certaines règles à mettre en place. Où on forme des policiers sur place, on forme des gardes frontières sur place. Et c'est cette zone-là où d'ailleurs, là, il y a plein de gens qui meurent, je ne sais pas combien. Parce que si on ne sait pas combien de gens meurent en Méditerranée, là, c'est comme... C'est comme une autre histoire. On est en train d'essayer de mettre en place quelque chose, mais on ne sait pas si on va vraiment réussir. Et puis vous avez la ligne rouge, là, qui est la ligne de l'espace Schengen, donc la frontière, la véritable, si vous voulez, frontière européenne, celle de Schengen, qui est accompagnée de ces grands cercles, elle date un peu hein, de cette carte, mais qui sont les cercles des personnes qui décèdent. Et puis vous avez une autre frontière, la CIMADE qui est là. Vous devez savoir, il y a des points. Ces points, c'est des centres de rétention. Donc c'est une frontière qui arrive après que vous avez passé la frontière linéaire. Et au début, ces points étaient à l'intérieur de l'espace européen, et petit à petit, vous voyez, ils sont un peu partout. Ouais. Financés par les États européens, par l'Europe. En Libye, c'était l'Italie au début, par exemple, hein, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a ces trois frontières qui sont en place et que j'aimerais, et j'espère ne pas vous prendre trop de temps. Mais, donc, on va un peu passer ces trois frontières. Donc, la pré-frontière, c'est les visas. Hein, c'est ça la première pré-frontière. On empêche aux gens de voyager de manière légale, de manière sûre, de manière peu chère, en mettant en place une politique des visas et voyez, hein, c'est qui doit demander des visas pour partir.
Eh bien, c'est les pays les plus pauvres.
Ou sinon, c'est ceux qui sont tellement loin que de toute façon, ils vont pas arriver. Et après. Qu'est-ce que je voulais vous dire les... Non, je ne vais pas vous dire ça. Et après, ce que je vous disais, les compagnies aériennes, et je vais vous montrer, comme je vous ai dit, hein, à un moment donné, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher les personnes de partir, mais pour prendre un avion, ce sera un peu difficile de les choper quand ils arrivent ici, ils viennent en ligne directe, comment est-ce qu'on pourrait, on ne va pas les jeter de l'avion, hein, ça serait quand même plus trop
long. Pas encore.
Et puis c'est pas possible. Et donc du coup, on demande aux personnes qui ne sont pas des policiers de faire le contrôle des frontières.
Ah ouais.
Et en fait, comment est-ce qu'on oblige les compagnies aériennes à vraiment le faire véritablement pour de vrai? Eh bien, des sanctions et des amendes.
Ah, ouais.
Vous avez une petite personne qui probablement est un clandestin sur votre avion, et vous avez des amendes. Là, c'est un autre ami, Théodore Berg, qui en 2017 a donné ces chiffres très difficiles à trouver, hein, mais pour la France, en 2014... Les compagnies aériennes françaises ont payé 7 millions d'euros d'amende parce qu'ils avaient mis dans leur avion des personnes qui n'avaient pas les bons bouquins. C'est des amendes directes, c'est aussi des avions qui restent sur place pendant quelques jours. C'est pas drôle, hein? Et du coup, vous demandez à vos employés de contrôler, de bien contrôler. D'accord? C'est aussi une manière de pratiquer une politique d'externalisation des frontières. Et après, vous avez, ça aussi vous connaissez Frontex, qui a joyeusement eu son anniversaire de 20 ans, donc oui. 20 ans Frontex. Elle a passé l'âge de l'adolescence. Et Frontex, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est la première opération de Frontex. Elle est en train de revenir en fait. Je reviens à l'origine. La première, c'est l'opération ERA, qui a eu lieu entre Sénégal, Mauritanie et les îles Canaries. Depuis, évidemment, ça a été super contrôlé. Les personnes passent ailleurs, on remet une autre opération ailleurs, les personnes trouvent une autre route, et puis on remet une opération Frontex, ainsi de suite. Et là, Frontex est en train de revenir au Sénégal et en Sénégal notamment en Mauritanie pour remettre des renforcements parce que vous savez que c'est un peu la route la plus empruntée dernièrement pour essayer de passer en Europe. C'est ce qu'on appelle la route atlantique avec un nombre incalculable de morts. Là, c'est l'endroit le plus meurtrier en ce moment en Europe, même si c'est un peu loin des côtes européennes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage. Donc, on fait un peu copain-copain, copine, et puis derrière, on essaye de, par exemple, il y a tout ce discours comment est-ce qu'on dit ça? Lutter contre les deep causes of deep roots of migration, les racines profondes de la migration. Hein? Et ça, c'est vraiment le grand truc, parce que en fait. Et ça alimente aussi des fantasmes, l'idée que on amène de l'argent sur place et les gens vont devenir plus riches et donc du coup ils vont pas partir. Et en fait c'est exactement l'opposé qui arrive. Hein. Si une personne a toujours voulu partir, si vos petits enfants, vos enfants ont toujours dit j'aimerais bien aller en Australie mais j'ai pas l'argent, ben un jour quand ils auront l'argent, ils partent. Et bien, c'est exactement la même chose. Pourquoi les Africains ne devraient pas faire la même chose? Ils font la même chose. Hein? Donc, il y a aussi cette idée complètement fausse sur si vous enrichissez les pays, vous allez arrêter la migration. Parce que les pauvres de chez pauvres ne partent nulle part. Et il y a aussi cette autre belle chose qu'on essaye de faire, c'est conditionner l'aide au développement. Alors presque toutes les politiques d'aide au développement aujourd'hui ont toujours une clause: je vous donne l'argent mais vous fermez les frontières, je vous donne l'argent mais vous augmentez les contrôles aux frontières. Hein, il y a toujours ce chantage: je vous construis des hôpitaux, je vous construis des routes, mais en contrepartie vous fermez les frontières. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité de l'aide. Et voyez, hein, c'est tous ces instruments-là, tous ensemble, qui font en sorte que vous essayez de bloquer les personnes le plus loin possible avant de partir. Et les conséquences, visa denied, refus de visa, c'est ça. Et comme je vous disais, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première image je ne sais pas si je l'ai là sur la frontière, bon, c'est un cadavre quand même. Les premières images de cadavres sur les frontières, sur les plages, ça date des années 80, début 83-84, sur les plages en Espagne. C'est quand on a mis en place les politiques de visa. Donc il y a un lien direct et qu'on dénonce depuis combien d'années maintenant, et pourtant, en fait, c'est comme si rien n'était. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur la frontière, hein, si on a vu ce qu'on essayait de faire? Désolé. Avant la frontière, qu'est-ce qui se passe sur la frontière? Ouais, je vais prendre.
Tu veux voir de...
Tu veux pas, toi? C'est pour toi, non?
Non. Moi, je parle.
Et donc,
pas.
On met en place ce que je vous ai dit. Hein. Si, quand même, ces gens sont quand même têtus. Hein. On leur dit de ne pas venir, on leur donne pas de visa, on essaie de tout faire, on contrôle. Et bien, pourtant, ils viennent. Hein. Et. La dernière chose qu'on peut faire, comme je vous disais, c'est d'éviter ce dernier pas-là. Et même si c'est tout hypocrite comme discours, parce qu'on sait que les murs les plus hauts n'empêchent pas les personnes de rentrer, ou pas, en tout cas pas là où l'endroit, éventuellement vous le déplacez un tout petit peu le flux ou le passage, mais il y a aussi cette recrudescence de murs que mon collègue Stéphane Rosier appelle les murs anti-pauvres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et il y a une multiplication, vous vous rappelez très bien, hein, chute du mur, plus jamais de mur.
Oui.
Et en fait, 2001 notamment, les attentats aux États-Unis ont créé toute cette recrudescence de murs, y compris en Europe. Alors le premier, vous vous rappelez, alors je ne sais pas si, selon comment vous entendez l'Europe, c'est quoi le premier mur qui a été construit, une barrière frontalière qui a été construite en Europe? Je vous interroge, hein, comme à l'école.
Berlin.
Oui, mais après Berlin.
Après Berlin.
Quand Berlin tombait.
Israël-Palestine.
L'Europe.
pas dans les pays de l'Est.
En Italie.
Non.
Dans
à l'Est. À l'Est.
Alors le premier, c'était. Mais c'est pas vraiment sur le continent européen. C'est en Europe, mais c'est pas sur le continent européen.
Ah.
Ouais, c'est ça. C'est Ceuta et Melilla, ok. Et donc c'est l'enclave espagnole au Maroc. Et puis sur le territoire européen, si je vous dis Évros.
En Grèce.
À la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, c'était 2012 quand ils ont construit ce mur. Et voilà, hein, donc les murs qui se multiplient. Plein de kilomètres. Je crois que peut-être le plus long. Je ne sais pas si le plus long est celui entre la Slovénie et la Croatie, fait du 250 km.
Ah.
Voilà, donc en Europe aussi, ça se multiplie. Et ben voilà, D'ailleurs, la barrière frontalière entre la Croatie et la Slovénie, c'est un sketch, pas possible. Mais ils l'ont construit, ça a coûté une énormité. Ils sont en train de démanteler maintenant. Et en fait, même, c'est sur, au bord d'une rivière, il y a les flancs de la rive là qui sont en train de s'effondrer. Et si vous passez à côté, vous faites comme ça et le mur est. Mais bon, mais ça fait quoi en fait? Ça, c'est sûr. C'est que ça a engraissé pas mal de poches.
Ouais.
Donc il y a des gens qui sont mis bien à la poche. Ils sont bien. C'est un business énorme. Énorme. Pourquoi on construit un mur? Pourquoi on militarise les frontières? Parce que ça rapporte énormément d'argent.
Ça coûte vraiment.
Hein?
Ça coûte aussi. Parce que c'est.
Ah, ça, ça dépend de quel côté vous regardez. Ça, beaucoup, ça nous coûte en tant que contribuable. Ça remplit les poches de certains. D'accord? Et c'est toujours les mêmes, hein? Airbus, Leonardo, Thales. C'est vraiment les énormes industries qui font à la fois le militaire et le civil. D'ailleurs, c'était aussi quand, à l'époque, il n'y avait plus autant de guerres. C'est très bien d'avoir ça, parce que comme ça, hein, vous pouvez faire un gros business. C'est le livre de Claire Rodier qui date d'un peu maintenant, mais avec Xénophobie Business, qui explique très bien ces mécanismes. Et là, je vous ai mis quelques, 80 millions d'euros, par exemple, la Slovénie et la Croatie. Comme s'ils avaient. Et puis là, maintenant, ils sont en train de le démanteler. Mais ça a coûté juste 80 millions d'euros. C'est pas très grave, n'est-ce pas? Et je voulais vous lire un passage de François Gemelle, que vous connaissez probablement, et qui explique aussi un truc qui est assez intéressant. On disait, derrière la question de la fermeture des frontières, il y a un énorme business, à la fois un business pour les industries de surveillance et d'armement. C'est aussi un énorme business pour les passeurs, aujourd'hui devenu le troisième trafic illégal le plus rentable au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 35 milliards de dollars. Avec aussi cette caractéristique qui le rend tellement attractif avec les migrants, contrairement au trafic de drogue et au trafic d'armes, quand vous perdez la marchandise, il n'y a personne qui vient la réclamer. Et je crois que c'est vraiment important de se rappeler ça. Vous avez intérêt à trafiquer des êtres humains plutôt que de trafiquer de la drogue. C'est ça hein, qui est en train de nous dire François Gemelle. Et autre conséquence de cette fermeture des frontières, militarisation des frontières, rendre les chemins toujours les plus périlleux, les plus longs, les plus destructeurs possibles, c'est qu'en fait... Ça permet de hyper-exploiter les gens. Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas de papier, qui sont très vulnérables, qui sont très fragiles, qui ont été très... La frontière sert à créer des conditions d'hyper-exploitation où certains migrants entrent, mais dans une situation d'extrême précarité. Si vous êtes sans papier, vous travaillez pour moins que le salaire minimum. Si vous tentez de vous syndiquer, vous serez menacé d'expulsion. Les frontières maintiennent la citoyenneté raciale et créent un réservoir de main-d'œuvre bon marché, hyper exploitable. Et donc, en fait, les frontières, les murs aux frontières ne sont pas faits pour arrêter des gens. Ils sont faits pour les faire venir de plus en plus vulnérables et rentrer vulnérables et pour
engraisser le business des frontières. Et après, l'autre conséquence, hein, qui dit fermeture des frontières, et aujourd'hui on le sait de plus en plus, bah, dit mort aux frontières. Et je vous recommande de voir sur ce lien, Vision Carto, c'est Philippe Rekachevitz, que vous connaissez désormais, Philippe Rivière, celui de la carte des visas, et moi-même, qui animons ce site. Et là, vous voyez, c'est une vision, chaque point, vous pouvez la zoomer, chaque point, c'est un mort, qui est géolocalisé. Et vous avez aussi, je suis géographe, j'aime bien la carte, mais vous voyez, vous mettez en fait du point de vue de l'Afrique, et vous voyez l'horizon là. C'est l'Italie, la France, c'est ça. Mm-hmm. Là-haut, la ligne, c'est votre horizon. J'ai pas des âmes sensibles dans la salle ? Ça va ?
On ne sait pas si on va rester.
Voilà, hein, ça c'est ce que je vous disais, hein, vous mettez les. Des barrières, et vous avez ça. Et vous avez... Ah ben voilà, là, je savais que je l'avais, la liste de United. Ah. Donc la liste de United, qui est donc cette petite association. Quand je dis petite, ils sont deux. Qui depuis 1993... Alors, imaginez-vous, ce bonhomme, il fait ça depuis 1993. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il fait ce décompte des morts aux frontières, comme il peut, quand il peut. Et vous pouvez la télécharger, c'est un PDF de 113 pages. Aujourd'hui, c'est 113 pages.
Oui.
Dans laquelle il répertorie et il archive en fait toutes les informations qu'on arrive à récolter autour des morts aux frontières. Parce que, à la différence, comme je vous disais, à la différence des marchandises, que quand on perd une marchandise, on va réclamer notamment auprès des assurances de l'argent. Là, vous perdez des personnes, en fait. C'est des personnes qui sont super surveillées, sur-surveillées, qui sont contrôlées tout au long du parcours migratoire. Et bien, comme par miracle, quand ils meurent, on ne sait plus rien. Et personne ne sait plus rien. Et donc, allez retrouver ces informations-là. Je vous garantis que c'est un travail. Moi, pour trouver même les morts à Vintimille, je ne suis pas sûre d'avoir le bon chiffre. Et je parle des morts récents. Hein. Je ne vais pas retourner en arrière. Donc, pour vous dire... Je veux dire, oui, c'est beaucoup trop de morts, c'est une quarantaine de personnes, c'est trop, mais c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à savoir combien de personnes sont décédées à la frontière terrestre entre Vintimille et Menton. Et puis, je ne vais pas vous parler beaucoup de la post-frontière, hein, donc la rétention administrative ou détention administrative, ça dépend des pays, mais voilà, tous ces endroits où on enferme des personnes qui n'ont commis aucun délit, mais juste sur la question des papiers, en fait. Et comme vous le savez probablement, la détention administrative, vous avez moins de droits quand vous êtes en détention administrative que quand vous êtes en détention pénale. Et que là aussi, le business, il voit très, 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 très loin, parce que beaucoup de ces centres sont gérés par des entreprises privées et par des gros groupes, notamment G4S, hein, le G4S, qui parfois vous voyez faire de la surveillance dans les supermarchés, dehors, les vigiles et tout ça, hein, c'est les mêmes boîtes.
Ce n'est pas le cas en France.
Hein ?
Ce n'est pas le cas en France.
Non, ce n'est pas encore le cas en France. Je pense qu'il faut qu'on en encore entre parenthèses. Mais c'est le cas en Italie, par exemple. C'est le cas en Suisse. La Suisse a aussi une petite multinationale qui s'appelle ORS, et ils essayent parce que c'est la même logique, en fait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans et personne ne vient réclamer quoi que ce soit, et c'est beaucoup d'argent qui passe dans les poches des gens. Et puis aussi il y a cette nouvelle idée née en 2015 qui s'appelle Hotspot.
Ah oui.
Vous avez entendu parler au spot de Lampedusa, de Trapani,
oui, oui.
Qui va se... Alors, je ne vais pas rentrer, je ne connais pas très très bien tous les détails sur le pacte et tout ça, mais ça, c'est toutes des logiques, en fait. Ce que je vous raconte là, imaginez ça que dans le pacte européen, le nouveau pacte, c'est juste renforcer ça, quoi. Renforcer l'externalisation, renforcer la détention, renforcer le tri aux frontières. Là, par exemple, je crois que l'Italie a, si ma mémoire est bonne, a 1600 places dans les hotspots en ce moment, pour des migrants qui arrivent. Et dans le nouveau pacte, c'est prévu que l'Italie prévoit quelque chose comme 15 000 ou 20 000 places en hotspot. C'est quelque chose. Ça, peut-être quelqu'un a le chiffre plus... plus jeune. Donc c'est vraiment, cette logique-là est juste renforcée, en fait.
Renforcée.
De tri. Mais c'est ce que tu as dit au début, hein, c'est vraiment ça. Et puis aussi, on voit aussi, et ça c'est un peu ce sur quoi je travaille aussi, il y a, ça c'est plus récent, à partir de 2015, la Schengen, finito Schengen, hein, on n'en parle plus, parce que plein de contrôles aux frontières aussi, évidemment, là sur des contrôles aux faciès, et vous avez des frontières intérieures qui se militarisent, ou en vous savez que la France depuis 2015 continue à faire des contrôles aux frontières, et donc c'est une demande de l'Union Européenne d'une exception du code Schengen, hein, et c'est de 6 mois en 6 mois. Alors en fait, depuis 2015, depuis la COP 2015, la COP 21, c'est possible, Paris, c'était ça, COP 21 2015. Bon, bref, la COP de Paris, d'accord. Depuis là, on a dit, alors, vous pouvez, vous ne devez pas demander à l'Union Européenne, vous devez notifier à l'Union Européenne que vous contrôlez, vous faites des contrôles aux frontières, donc des contrôles fixes aux frontières. Et de 6 mois en 6 mois, on doit dire quelle est la menace grave pour la sécurité. Alors là, si vous allez regarder les raisons de la menace grave, elles sont une plus belle que l'autre. C'est public, hein, vous pouvez voir quelle est la justification que la France, par exemple, a donnée de 6 mois en 6 mois pour continuer à faire, à mettre en place ces contrôles aux frontières. Les autres pays n'ont pas fait. Je crois que la France, c'est la championne. 2015, sans interruption. Ils ont gagné le trophée.
Ah oui.
Et sur ces frontières-là, et c'est sur ça que je travaille, mais je ne vais pas vous... Je suis presque au bout. Hein. Vous tenez à cœur ?
Oui.
Sur ces frontières intérieures, et là, je vais donc reprendre ma casquette un peu frontière alpine. Il y a un collectif en 2017. 2017, c'est un peu les vrais premiers passages un peu nombreux à la frontière, à Montgenèvre et Col de l'Échelle. Col de l'Échelle, c'était plutôt 2016, puis ils ont arrêté assez rapidement. 2017, c'est plutôt Montgenèvre. Et il y a ce collectif qui n'existe plus, mais qui est un peu maintenant débordé sur... là, sur la table, vous avez 12 migrants.
Oui.
Et refus solidaire. Bon, bref, c'est un peu compliqué là-haut. Donc, partout, je pense. Mais ce collectif de Névache, donc quand les personnes descendaient encore du col de l'Échelle et qui arrivaient en fait à Névache, et qui ont écrit cette lettre à Monsieur le Président, où il termine en fait, au cours du mois de décembre, nous avons dû à 6 reprises au moins faire appel au secours en montagne pour éviter la mort de migrants. Non sans éviter gelures et traumatismes divers. Pas encore de mort reconnue, mais cela viendra, Monsieur le Président. Et effectivement, et j'en ai encore discuté ce week-end avec Michel Rousseau, qui est un des fondateurs de 12 migrants. Ils étaient vraiment, vraiment convaincus de pouvoir éviter des morts grâce notamment à la mise en place de maraudes solidaires qui ont été mises en place dès le début par des professionnels de la montagne et puis par d'autres personnes. Et ils étaient convaincus de pouvoir ne pas avoir jamais de drame dans leur montagne. Et puis en fait, ça n'a pas été possible. Et ils ont évité beaucoup de morts, beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes. Ils ont vraiment fait un travail formidable. Mais effectivement, la première personne... Je vais réussir. La première personne à avoir trouvé la mort sur ces montagnes, donc je parle de la frontière nord, hein, donc de la frontière haute alpine, c'est Blessing, donc Blessing Mathieu, qui est morte le 7 mai 2018. On l'a retrouvé son cadavre le 9 mai 2018, à quelques 12 km en aval de Briançon. Et c'est sur ce cas-là, donc sur celui de Blessing, qu'avec un collectif de collègues et chercheurs, avec tous les gens et avec cette association qui s'appelle Border Forensics, qu'on a fait cette contre-enquête pour essayer de reconstituer la chaîne des événements qui ont mené à la mort de Blessing ce matin très tôt à la Vachette. quand elle était, et ça on a pu reconstituer les événements parce qu'on a retrouvé un témoin, donc un compagnon de voyage de Médicine, qui nous a dit, et on a filmé, on a cartographié ce qui s'est passé, on sait maintenant exactement ce qui s'est passé, grâce, si on croit la parole d'Hervé, mais on croit la parole d'Hervé, il n'a aucune raison de mentir d'ailleurs. Donc ils ont été poursuivis, il y a eu course poursuite de gendarmes mobiles qui à l'époque étaient dans le rayon sommet. Et Blessing est tombé dans l'avirance, poursuivi par un des gendarmes jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la rive. Et après, on ne sait pas très bien, mais on dit que le cadavre a dérivé sur 12 km et puis il a été retrouvé, retenu par le barrage, par les grilles d'un barrage hydroélectrique à Presles, pour celles et ceux qui connaissent la région. Et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'approche forensique et d'architecture forensique. Ce n'est pas la peine de le faire ici, ou je pourrais le faire un jour. Je peux présenter l'enquête sur Blessing.
Oui.
Mais ce qui est vraiment toujours intéressant dans cette démarche, c'est de penser ce qu'on appelle la violence directe, en fait, le cas de Blessing, jamais comme un cas isolé, mais toujours le mettre en lien avec la violence systémique et de dire quelles sont les conditions systémiques qui font que Blessing a pu mourir ce jour-là à la frontière. Et un des travaux que j'ai fait, que j'ai essayé de faire pour justement essayer de comprendre ce contexte, c'était de savoir combien d'autres personnes sont décédées et quand elles sont décédées à la frontière alpine, on va dire. Et c'est assez intéressant parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais vous voyez, alors, c'est, encore une fois, hein, c'est des chiffres sur des morts aux frontières, donc on sait ce qu'on sait, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de... Mais, vous voyez que là, en 2015, c'est toutes les Alpes, d'accord ? Parce que je considère que le système dans lequel est inscrite la mort de Blessing est le système alpin, parce que tous les États alpins ont fermé leurs frontières au même moment. Et vous voyez que vous avez la grande majorité des personnes qui sont décédées à partir de 2015.
Ah,
donc
oui.
À partir du moment dans lequel on a remilitarisé, il y a eu une refrontiérisation des Alpes. Voilà, donc ça c'était c'est environ 70% ou 70%, comme je dirais moi, des personnes qui sont décédées après 2015 et les autres. Mais après, encore une fois, le travail que je suis en train de faire, c'est toquer à chaque mairie frontalière pour dire est-ce qu'on peut essayer de voir le personnel de l'état civil, est-ce que vous avez des personnes qui sont sans nom ou avec un nom, mais bref, il y a un peu, on essaye de trouver comme on peut, et à chaque fois on trouve de nouveaux cas dans des cimetières, dans des à l'état civil, de cas dont on n'avait pas encore connaissance. Et je ne parle pas des cas des années 40, hein, je parle des années assez récentes. Moi je demande à partir des années 90. Et je voulais terminer par un petit retour à l'histoire. Et je voulais vous montrer une photo.
Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous vous rappelez de ça ?
C'est
que
Jacob
fait
quelque
chose avec
ses
livres.
La question d'Israël.
Non, c'est pas Israël. C'est plus récent. C'est vous si vous pensez à Israël.
La guerre du Koweït.
Oh là là, s'il vous plaît. Qui a dit ça ? Qui a dit le bon mot là ?
Ah.
Oui, l'Italie. C'est qui ces personnes ? Et viennent tous ces personnes. Ah, c'est marqué mince. Je vais couvrir ça. Mais alors, c'est qui ces personnes ?
Les Yougoslaves ?
Ouais, presque. Mais pas trop. Non ? Ouais. C'est des Albanais.
Ah oui, l'Albanie.
Alors, et je vais vous me permettez de lire en italien, et puis je vais tout traduire quand même.
Oui.
Un extrait d'un article qui a été écrit par un journaliste que je trouve très très beau. Et que par contre, je dois m'asseoir parce que sinon je n'arrive pas à lire comme ça. Ah non, mais c'est écrit là.
Com'è che sono spariti gli albanesi? Se incrociamo i dati, si capisce che hanno cominciato a sparire dalla crocefissione mediatica, dal centro del problema, quando semplicemente sono cambiate alcune leggi e andare e venire dall'Albania all'Italia è diventata una cosa un po' più normale. Che si poteva fare comprando un biglietto e salendo sul traghetto. Una nave normale.
non erano sommersa di corpi e a rischio di affondare, perché affondavano anche le navi degli albanesi e morivano gli albanesi. Adesso non vogliono più, vanno e vengono, si muovono. Così possiamo dire che l'integrazione smette di essere un problema quando dai luoghi si può andare e venire.
Tu l'hai traduit?
Oui.
Vous n'avez pas tout compris?
Oh!
Oh! Comment cela fait-il que les Albanais aient disparu? Si nous croisons les données, on comprend qu'ils ont commencé à disparaître de la crucifixion médiatique du centre du problème quand simplement certaines lois ont changé. Et venir en Italie depuis l'Albanie est devenu une chose un peu plus normale. Qu'on pouvait le faire en achetant un billet et en montant sur un ferry. Un bateau normal, non pas un bateau submergé de corps qui risquait de couler. Car les bateaux des Albanais coulaient. Et ils mouraient, les Albanais. Maintenant, ils ne meurent plus. Ils viennent et repartent. Ils bougent. Ainsi, nous pouvons dire que l'intégration arrête d'être un problème quand on nous permet d'aller et de venir. Voilà.
Vas-y. Oui, je finis.
Bon, mais merci Christina pour cet exposé très intéressant, très brillant. On va prendre un petit temps pour le débat. S'il y en a qui veuillent intervenir pour poser des questions ou donner leur point de vue. Bon, on prend au fur et à mesure ou...
tu me prêtes un papier, un stylo.
Vas-y.
Je prends le micro.
Oui. Vas-y, oui, fais comme ça, c'est bien. Mais... Tiens.
On n'est pas riche,
c'est pour ça qu'on est là.
Oui, merci, c'était vraiment complet. Moi j'avais une remarque d'abord, une petite question. La remarque c'était la première diapo, en fait, c'est un Européen, australien, riche, une grande bourgeoisie.
Autrichien.
Il se balade dans ce qui est un monde complètement occidentalisé. Genre l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique, c'est des pays européens, c'est des colonies, etc. On peut se balader. Donc il n'y a pas besoin de visa. Donc c'est quand même une situation un petit peu différente de ce qu'on
fait. Oui, on est d'accord.
Finalement, c'est. Les gens qui, au contraire, venaient d'Afrique pour monter en Europe, c'était pour aller.
Oui, mais ceci dit, ouais. Après, en Afrique, on pouvait circuler, mais non, on ne peut plus circuler en Afrique aussi, par exemple. Oui, non, mais d'accord.
La question, c'est, il me semble qu'il y a des travaux en Grèce sur le démembrement et sur l'identification des morts. Moi, j'ai vu une émission, je crois, où effectivement, on se baladait dans un cimetière, un cimetière, effectivement, on essaie de trouver des indices pour identifier ces personnes, pour leur donner un nom, pour leur appeler les familles, etc. Et vous n'avez pas de préférence à ça?
Non, je ne fais pas, parce que sinon, nous... Mais est-ce qu'il y a d'autres...
J'ai l'impression qu'il n'y a que deux personnes qui travaillent dans l'Europe à ça.
Est-ce qu'il y a
non, je ne dis pas ça.
Vous levez la main? D'accord.
Oui, tu prends deux, trois.
Je vais essayer de ne pas écraser des pieds. Tant que c'est que des pieds, ça va.
Voilà, je voulais savoir aussi s'il n'y a pas un autre élément en termes de migration, j'allais dire comme arme de guerre. Alors je parle sous votre contrôle, si je me souviens bien, à une époque, la Biélorussie faisait venir beaucoup de migrants, c'était beaucoup de passage.
On n'entend pas bien.
Pardon ? Oui, voilà, pardon. C'était beaucoup de passage parce que, en fait, les Biélorusses étaient en froid avec la Pologne et ils cherchaient à faciliter, à embêter la Pologne pour rentrer des migrants en les lâchant près de la frontière polonaise. Donc c'est ce que j'appelle une gestion comme arme de guerre. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que. Voilà.
Donc une question sur migration et armes de guerre. Est-ce qu'il y a d'autres combats pour en prendre une série hein,
doucement, hein, j'ai un cerveau qui...
Ouais. Oui, bah alors, elle répond aux deux.
Le cerveau bien construit, mais non.
Je suis suisse, ceci dit.
Elle est suisse. Ah ben, ouais.
Pas déconner quand même. Bon, après, j'ai un autre. C'est bien d'avoir. Moi, j'ai deux passeports, donc c'est bien de jouer avec deux passeports. Donc, parfois, on se dit, bah, je suis suisse, je peux faire. Mais non, mais je suis italienne. Donc oui, la Biélorussie, oui. Mais effectivement, hein, donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui a quand même. Qui s'appelle Green Border, et qui explique très bien, en fait, ce jeu. En fait, c'est un peu la même chose. En fait, on prend ces personnes et puis on joue avec. Hein. Et c'est aussi. Je ne sais plus, ils ont donné un nom à ce. À ce chantage, je ne sais plus comment. Mais oui, on peut dire qu'effectivement. Et ça a été. L'idée est celle que les personnes pouvaient arriver en Biélorussie sans visa. Et puis, du coup, de la Biélorussie, on leur promettait que c'était facile de rentrer en Pologne. Et puis, en fait, ils ont fait ce. Il y a aussi toute une réflexion, mais je le fais aussi sur les Alpes, on peut le faire aussi sur la Méditerranée, de comment on utilise les éléments naturels de la frontière pour l'utiliser comme arme contre les migrants. Alors, le grand classique, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans lequel on a utilisé vraiment le désert. Et de façon, c'est écrit noir sur blanc, hein, par le gouvernement américain, de dire, en fait, on déplace les personnes en dehors des villes oui. pour les faire passer plus loin possible dans le désert où il y a en fait. Mais dans les Alpes, on fait la même chose. Hein, on peut le faire à des petites, à plus petite échelle éventuellement, mais on fait la même chose dans le désert aussi. Quand on a fait des pactes avec des accords avec le Niger, c'était ça aussi. Oui. On a fermé les routes du Niger où il y avait des possibilités d'avoir des ressources, notamment les puits, et donc on pouvait boire. On a bloqué avec des policiers, de l'armée, je ne sais pas qui est, des soldats de l'armée, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, les personnes sont obligées de passer là où il n'y a pas d'eau. Et vous imaginez bien ce qui se passe quand vous n'avez pas d'eau. Donc, il y a effectivement cette utilisation en fait, de la géopolitique. En fait. Mais avec la Turquie, on a fait la même chose. Hein, donc voilà. Pour la question des identifications des morts, non, alors je ne voulais pas dire du tout qu'on n'ait que deux personnes à travailler là-dessus. Ceci dit, Gert a été seul pendant. En fait, c'est lui, il prend toujours. Il y a une quinzaine d'années, The Guardian, donc le grand journal britannique, a publié la liste, donc a publié toute la liste comme un supplément de son journal. De son journal, du journal de la. Et là, on a commencé à vraiment beaucoup de personnes à s'intéresser, beaucoup d'artistes aussi, beaucoup d'associations, mais aussi beaucoup d'artistes à s'intéresser aux morts aux frontières. Mais il a fait quand même pendant, je pense, une bonne quinzaine d'années son travail seul.
Parce que c'était important,
c'est mais,
de
alors,
nombrer, mais d'identifier, de nommer.
Alors, mais là, oui, mais là.
Là, on rentre dans je pourrais parler 10 heures là-dessus. Alors, il y a la question, déjà pour moi, compter, juste compter, c'est un acte politique. Parce que compter veut dire pouvoir montrer l'étendue, montrer certains les liens entre loi et mort. Donc, il y a ça. Après, il y a effectivement l'autre. Grand problème. En fait, si vous regardez la liste, il y a une chose qui vous frappe en début, c'est que inconnu. Donc, ce qu'on voit et qu'on ne s'attend pas aussi, c'est le nombre de suicides qu'il y a. C'est aussi le nombre des personnes qui meurent en détention. En rétention administrative, en détention administrative. Donc, il y a énormément de suicides dans cette liste aussi. Et énormément de. Inconnu. Je crois qu'on est plus haut que ça. Hein, dans la liste de Gert, je crois que 95% des personnes ne sont pas non pas.
Ah, 95.
Gert, c'est une association, ce n'est pas l'État. Donc, il y a aussi probablement des choses que lui ne sait pas et que la commune qui a inhumé la personne a comme information. Il y a depuis effectivement, surtout depuis 2015. Mais un peu avant, par exemple, si vous vous rappelez de la frontière de la Grèce, peut-être la frontière terrestre, donc dans les Grosses, et il y a notamment un médecin légiste qui s'appelle Pavlos Pavlidis, qui est Alexandropoulos, qui est un médecin légiste et qui, lui, depuis longtemps, essaye de donner un nom à ces personnes.
Et il y a effectivement plusieurs. Et là d'ailleurs, c'est même un problème parce qu'il y a plein de collectifs qui essayent de compter les morts et d'essayer de trouver l'identité de la personne et que les informations ne circulent pas. Et donc, c'est aussi un peu. C'est ce qu'on essaie de faire, en fait, de structurer aussi tous ces collectifs qui existent pour l'identification. Et il y a notamment un livre qui est très très beau et qui s'appelle Relier les rives, qui a été fait à partir du cimetière de Catane par deux collègues, Carolina Kobelinski et Philippe Ofuri, et c'est en français le livre, et qui ont mis en place ce qu'ils appellent une task force, donc un groupe à la fois de personnes qui sont du monde associatif Croix-Rouge les personnels de la commune, plus de la préfecture, plus la police, à travailler ensemble pour essayer de trouver le plus grand nombre de noms des personnes. Et après, on se rend aussi compte, donc il y en a, mais c'est un travail de dingue, en fait, parce que personne ne s'y intéresse, parce que les États ne le font pas. Pour l'instant, ils ne sont pas encore obligés de le faire. Donc, il y a aussi, au niveau politique, au niveau européen, donc à l'Union européenne, on essaie d'impulser, en fait, des nouvelles lois qui obligent un peu à l'identification des personnes ou à tous les noms des personnes. Et il y a un peu deux techniques deux méthodes pour essayer de compter les morts et puis de savoir combien de personnes sont décédées. Vous avez soit par l'événement, par le cas, par l'accident, même si c'est pas un accident, ou par les corps. Donc il y a un peu des bases de données qui sont faites à partir de la presse locale, de ce que fait remonter les associations par « il y a eu un accident, il y a eu un mort ». Et après, il y a tout le travail qui commence à être fait de recenser dans les communes, dans les cimetières, les personnes migrantes qui sont décédées. Et il y a encore plus de problèmes de comment vous faites pour faire en sorte que vous rendez interopérable, c'est le mot technique, hein, les deux bases de données pour ne pas faire des doublons et tout ça. Et moi, je me rappelle par exemple, quand j'ai discuté avec la fonctionnaire, une employée de la commune de Ventimiglia, donc en Italie, qui nous. Et en fait, j'ai découvert qu'eux, ils avaient pratiquement tous les noms de toutes les personnes. Là, je ne sais pas si vous savez, mais bon, là, maintenant, je le sais. Le certificat de décès est un acte public. Donc, tout le monde peut demander les certificats de décès de tout le monde. D'accord. La personne décédée n'a pas de droit à l'image. Et donc, on peut avoir ces actes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que les collectifs sur place avaient une liste assez importante de personnes décédées, mais sans nom. Et ils n'avaient pas le courage, là aussi, hein, c'est un peu ce lien entre associations, militants et institutions qu'il faut construire, d'aller voir les personnes de la mairie pour dire est-ce que vous avez des informations sur cette personne. Et nous, on l'a fait, donc la casquette chercheur, je pense que ça aide quand même. Moi, j'ai passé deux après-midi avec cette dame. Et je me suis rendu compte qu'elle avait pratiquement tous les noms. Et après, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous avez ces noms? Et c'est là où, par exemple, je me rappelle d'un cas, il dit, ben ça, nous, on ne fait que enregistrer ce que nous dit la police, ce que la police nous donne, ou la préfecture, comme renseignement. Et donc, du coup, elle m'a dit, ben ça, je sais que c'est la police allemande qui a donné l'information à la police française, qui a donné l'information au bureau de l'état civil. Je dis, mais oui, mais c'est quoi comme nom? Et c'est probablement le nom que la personne a donné quand elle était enregistrée dans un des hotspots à Lampedusa. Blessing Matthew, elle ne savait pas Blessing Matthew ni jamais. Elle a décidé de donner le nom Blessing Matthew à Lampedusa. D'ailleurs, quand elle est décédée en France et que sa sœur a voulu venir reconnaître le cadavre, elle n'avait pas le même nom de famille. Et donc, c'est dur. Vous n'êtes pas la sœur. D'accord. Et donc, vous avez aussi ce problème, même si vous savez le nom. Et la mairie, en fait, a pensé bien faire. Ben, j'ai le nom, c'est bon, fini. Donc, je. Et ben, ça ne prend pas de bon. Et notre gros problème, c'est maintenant qu'on a les noms, mais qu'on n'est pas sûr que ce nom correspond à la personne, est-ce qu'on va essayer de trouver la famille? Mais si on dit, en fait, c'est Ibrahim, et que la famille cherche Mohamed, Mais ils vont dire, bah, c'est Ibrahim, c'est pas Mohamed, non, c'est pas mon fils. Peut-être lui, c'est son fils, parce que Mohamed, en réalité, c'est Ibrahim. Comment est-ce qu'on fait ?
Je peux dire une photo.
Si vous avez,
Oui. Donc, moi, j'insiste effectivement sur l'identification et le fait de nommer. Alors, je sais bien que c'est complètement en dehors d'un travail de recherche qui se veut plus exhaustif. Mais ce que je crois, c'est que l'enjeu, c'est quand même comment est-ce que l'opinion perçoit les problématiques des frontières avec les migrants. Comment avec 60 000 morts et avec, mettons, 600 000 personnes qui viennent, etc., 200 000 en France, 150 000 en France, comment est-ce que les gens peuvent concevoir qu'il s'agit en fait de personnes comme des noms?
Mais moi, si vous voulez venir me aider, je suis très bien.
Je comprends, mais je ne suis pas critique du tout. C'est simplement le fait que si on veut changer d'opinion, si on dit 600 000, 100 000, 60 000, on donne l'impression, finalement, d'un envahissement, les gens ont peur, etc. Si on dit, non, cette femme-là, elle est morte dans l'endurance, elle est tombée, poursuivie par un gendarme, elle s'appelait Blessing Mathieu, elle était couturière à Joff au Nigeria. Et c'est complètement différent parce qu'il y a, beaucoup plus d'empathie, d'appréhension du phénomène pour les personnes qui entendent ça. Et en ce sens-là, ça peut changer l'opinion qu'on peut avoir sur les
problèmes. Et bienvenue.
Je crois que c'est un vrai débat, c'est-à-dire arriver à redonner un visage humain à des gens que l'opinion publique aurait tendance à accepter. Ah, ici, là.
Oui. Ah,
oui, j'avais une question par rapport au réseau de passeurs.
Ouais.
Parce que ce que vous avez dit là, c'est effarant, mais je s'en doutais quoi. Parce que depuis des années qu'on entend tous les politiques dire qu'ils veulent lutter contre l'immigration, il y a une façon très simple de lutter contre l'immigration. Donc qu'est-ce qu'on sait de ce réseau?
C'est pas ça un réseau.
Merci.
On sait déjà qu'ils sont là parce que plus vous militarisez, plus vous devez être spécialisé pour pouvoir essayer de faire passer les gens. Donc en fait, le prix augmente au passage parce que vous rendez plus difficile le passage. Bon. Et après, donc en fait, en général, plus le passage est difficile, plus la frontière est militarisée, plus ces réseaux sont des réseaux type mafieux, type très organisé, tout ça. Les petits passages faciles, éventuellement, c'est le copain qui est passé avant. Allez, je te file 20 euros parce que tu m'as donné le mot tuyau. Ah, c'est un passeur. Oui, non, c'est beau. Il y a aussi la différence entre passeur et trafiquant. Hein, qui est... Mais après, c'est des catégories qui sont très fluides, en fait. Et qui, ça veut pas dire grand-chose, si ce n'est ce truc-là que je vous dis que plus vous fermez la frontière, plus il y a besoin d'organisation. Si vous, Saoud Amélie, là, c'est trois barrières de je sais pas combien de mètres en haut. C'est trois barrières l'une après l'autre. Je veux dire, vous pour pouvoir passer ça, ou pour pouvoir maintenant passer, mais même à Calais, on voit la même chose. Hein. Plus vous fermez, et plus le business est grand, et plus il y a besoin d'argent pour passer. Donc, après, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent. C'est aussi des gens de la famille, c'est des gens de la diaspora qui donnent un coup de main, c'est des gens qui veulent passer et donc pour se faire un peu d'argent pour pouvoir passer, ils aident les autres. Il y a de très très bons passeurs. C'est rendre service en fait.
Non, mais
c'est ce que je vous dis. Il y a tout. Et il y a aussi par contre quand c'est. C'est complètement alimenté aussi. Justement, on donne de l'argent pour militariser les frontières, et puis en fait, tout cet argent-là va finir en fait dans l'économie informelle, dans l'économie illégale, parce que il y a des passeurs qui se font. En Libye, par exemple, il y a effectivement, hein, c'est des milices de bandes non contrôlées par le gouvernement qui n'existent même pas. Mais effectivement, mais il faut te dire. Effectivement, il faut beaucoup de moyens pour faire passer à des gens dans certains endroits. Pour contrer, en fait, la sophistication de la militarisation aussi. Et il y a des bons et des mauvais. Alors moi, par exemple, ça c'est une anecdote magnifique. J'ai dormi dans un centre pour demandeurs d'asile en Serbie. C'était 2013-2014. C'était le moment dans lequel... C'était avant les Syriens, où on passait assez bien. Bon. C'est un hôtel, un vieux hôtel de luxe soviétique. Voilà. Donc on passe quelques jours dedans. Donc j'ai dormi dans une des chambres de ce centre. Et le matin, on entend, on voyait qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait de l'agitation, il y avait comme ça, et puis en fait, il y avait tous les migrants, ils étaient tous complètement énervés. Qu'est-ce qui s'était passé? Une dame était partie avec l'argent des passeurs. Personne ne soupçonnait. C'était une dame, comme ça, toute bien charnue, quoi, bien grosse, elle faisait rien, elle restait dans sa chambre, elle disait pas grand-chose. Elle avait un enfant hyper smart, il parlait 45 langues, il parlait avec tout le monde, je crois qu'ils ont organisé maman et fils. Ils ont pris l'argent de tout le monde et se sont barrés. Personne n'aurait soupçonné 2 ans et demie que c'était elle qui était en train de monter un coup pareil. Donc vraiment quoi, les passeurs, ça peut être tout le monde. Et ça peut être vraiment quelqu'un qui vous donne un petit coup de main. Quelqu'un qui, à Milan ou à Turin, encore mieux, vous donne les coordonnées GPS du passage facile de la frontière et qui vous donne le parcours du chemin à faire. Vous payez 20 €, vous passez, est-ce que ça c'est un problème? Non. Vous payez un taxi si vous n'avez pas de voiture là et puis vous demandez un passage. Mais c'est aussi un passeur. Comme c'est un passeur, d'autres figures qui sont plus problématiques. Mais c'est vraiment des figures vraiment, et qui existent parce qu'on a fermé les frontières.
Oui.
Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'a interrogé dans ce que vous avez dit, c'est enrichir les pays d'origine de la migration ne va pas changer la donne et la migration continuera. Ça m'interroge un petit peu parce que ça peut être, alors je peux me tromper, hein, mais une des raisons pour lesquelles il y a une migration, c'est la différence de niveau de vie, et ça peut se comprendre en se disant, rien à bouffer chez moi. Là-bas, c'est l'Eldorado, enfin voilà, plein de légendes, hein, mais quand même, ça peut être une motivation, alors ça va être.
Si, après voilà, c'est toujours bien plus complexe qu'un truc blanc et noir. Mais en fait, qui migre beaucoup, c'est les Européens. Qui migre en Europe, c'est eux qui font énormément. Parce que t'as. Comment dire? Il y a aussi un autre truc à déconstruire vraiment, c'est la migration de réfugiés environnementaux, de réfugiés climatiques. D'accord? On imagine. Alors, bien sûr, il y aura des réfugiés climatiques. C'est probablement des Marseillais qui vont aller dans le Bercor. D'accord? Ça va être vraiment des réfugiés climatiques. Ou nous qui vont vers l'an en Bretagne. D'accord? Ben, c'est ça, hein? Ça commence à se faire, hein? Alors c'est ça, en fait, les réfugiés climatiques, c'est surtout des personnes qui vont rester à l'intérieur du pays, des déplacés internes, qu'on appelle. Ça, c'est ce qu'on commence à voir. Mais surtout, c'est des gens qui vont être dans un cercle qui les enferme dans la pauvreté, dans un piège de pauvreté. Et qui, en fait, pour partir, tu as besoin de ressources. Tu as besoin de ressources financières, intellectuelles, et tu as besoin de liens, de contacts et de ressources sociales. Donc en fait, si tu es pauvre, très très pauvre, tu ne pars pas, tu n'as pas les moyens de partir. La question, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, tu pars de la classe moyenne vers la classe un peu moins moyenne, un peu plus riche. C'est là où en fait les personnes partent. Donc en fait, si tu enrichis cette frange de population, c'est là où les gens vont avoir, ils sont plus enclins à partir. Mais les pauvres, très pauvres, ne vont jamais partir. En fait, je peux être cynique, ils vont crever chez eux. C'est des questions de niveau aussi, mais c'est aussi pour un peu déconstruire toute cette idée. Ah, les réfugiés climatiques, c'est des millions de Bangladais qui vont venir chez nous. Non. Ou c'est toute la rhétorique de l'Union européenne, en faisant de l'aide au développement, même s'ils ne le font pas, ils le disent, mais ils ne le font pas, c'est comme ça qu'on va arrêter l'immigration. Ben non, en fait.
Ah, c'est conditionné à un système d'égalité au sein du pays.
Je prends juste les verres. Oui, après. On va prendre deux questions.
Oui.
Et puis, je rappelle juste,
on dit qu'on va arrêter.
Oui. Que on a le fantasme de l'invasion, alors que les plus grandes migrations se trouvent entre les pays limitrophes et les pays pauvres.
Oui.
Fermons la parenthèse.
On prend encore deux questions.
Mais ça, vous le savez déjà.
Oui.
Ils ont envahi par les Suisses.
Moi, ça va.
Vous avez vu? Et c'est les Suisses qui viennent vous piquer le travail.
La question, c'est par rapport à quelle espérance on peut avoir, parce qu'il y a des tas d'associations, il y a des tas de choses qui se font déjà maintenant. Est-ce qu'éventuellement, il y a des idées citoyennes qui marchent quelque part et qu'on ne connaît pas, que vous pouvez apprendre? Mais et vous, est-ce que vous êtes gardé de l'espérance dans tout ce problème?
Merci sur l'ensemble des initiatives qui existent. Je vais donner aussi un peu la parole. Est-ce que ça peut, c'est totalement... c'est différent, mon Guy, ce sera après.
Non, mais allez. Allez, sur l'espoir.
Ça lui permet de voir un peu.
Je vais juste demander où on est l'espace Schengen avec la montée du populisme des gouvernements nationalistes.
L'espace Schengen, hein, ben il est déjà pris.
Alors là, vous avez cassé l'espérance. Hein. On va commencer par l'espérance, si vous pouvez. Hein.
Moi, je ne suis pas très optimiste, je vois. Par contre, moi, je vois quand même une chose, c'est que... je ne sais pas, peut-être que vous la voyez aussi. En fait, il y a eu la photo du président Tayyab sur... Et il y a beaucoup de gens qui vivaient, de gens qui étaient peut-être déjà en train de d'aide, de soutien, solidarité avec les éléments, en fait, ça va durer comme toujours 6 mois et puis c'est fini. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de restes de cet élan de solidarité de 2015 qui reste encore aujourd'hui. Et dans les initiatives, je pense qu'il y a un peu partout, en fait, plein de belles choses qui se font, et vraiment, quoi. Et on le voit... alors là, par exemple, ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est qu'il manque quand même un peu de... dans la salle, de
jeunes. Oui, on est bien d'accord. Oui,
et en plus, quand ils sont là, ils ne m'aiment pas. Non, mais c'est vrai que... mais par contre, effectivement, moi, je vois qu'il y a quand même... Et moi, je vois dans mes étudiants, quand même, mes étudiantes, il y a quand même... pas mal de gens qui sont bien, bien indignés contre... Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les jeunes, on parle beaucoup d'intersectionnalité. Ce mot barbare, quand on... intersectionnel, ça veut dire islamo-gauchiste, autre mot barbare. Mais ça veut dire que les luttes des jeunes sont quand même des luttes qui sont, en gros, pro-migrants, écologistes, féministes, anticapitaliste. Et je pense que dans les jeunes, il y a quand même beaucoup de ça. Le problème, c'est que il y en a aussi beaucoup qui sont... Je vois un peu le... le grand écart, comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de dans tous les hotspots, mais pas se enfermer, mais les points un peu chauds de passage, il y a plein de jeunes qui font plein de belles choses. Après, ça ne se passe pas toujours très facilement avec des personnes qui sont un peu plus... bon, voilà. Mais il y a quand même beaucoup, et beaucoup d'Européens qui se baladent dans toute l'Europe pour donner un coup de main, pour être là dans la solidarité. Donc, il y a quand même ça qui se joue. Et après, qu'est-ce qui marche? Moi, je pense que ce qui marche, c'est aussi d'essayer de penser des politiques d'accueil au niveau du territoire, et qui ne sont pas seulement l'accueil de personnes migrantes, mais l'accueil de tout le monde, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment important de faire comprendre qu'on ne doit pas alimenter la guerre entre pauvres, quoi, et que si on fait travailler tous ensemble le territoire pour toutes les personnes fragilisées, en fait, y compris les personnes migrantes, mais pas que les personnes migrantes, mais travailler ensemble. Je pense que là, il y a des choses belles qui se font, notamment dans le Trieste, il y a des choses qui sont de penser le territoire d'accueil et de le penser comme ça en désessentialisant un peu les personnes migrantes et de faire comprendre que, en fait, souvent, c'est les personnes qui arrivent dans un territoire plus mal, par exemple, comme le vôtre, mais un des problèmes, c'est ne pas avoir de voiture. Et bien, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes-là? C'est mettre des transports publics. Mais si on met des transports publics pour ces personnes-là, et bien ça va servir aux autres aussi. Donc, en fait, de réfléchir vraiment à ces politiques de territoire. Je pense que c'est peut-être une manière de le faire.
L'espace Schengen, voilà. Son
évolution. Schengen. Je sais pas, mais en tout cas, l'espace Schengen, Alors après, pour nous, c'est encore l'espace Schengen. Hein. À part qu'on se fait parfois embêter quand on est en bus et qu'on rentre de Turin et puis on doit venir en France. Mais sinon, c'est surtout l'espace Schengen. Ça reste au niveau économique, ça reste quand même. Mais ça, il y a des gens. Et je pense que. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Là.
On est en train d'épuiser notre intervenant, c'est le but.
Oui.
Alors, encore une question, on en prend une ou deux, après, il y aura à boire qui vous sera proposé et on pourra continuer la discussion.
Et moi, j'ai une petite info.
J'ai trois, donc comment je fais 3 pour 2 là.
Je viens revenir sur l'espoir. Il y a quand même en Europe, il n'y a pas que des pays avec des politiques anti-migrants. Le Portugal, actuellement, a une politique d'intégration et l'Espagne s'aligne un peu aussi.
Oui.
Merci pour cette contribution. Je sais, je fais vite parler. Donc, on a dit 2 pour 3, mais ça va être 3 pour 2.
Et même en Italie, il y a plein de choses très belles. Hein.
Car la Giorgia.
Et en Italie aussi, qui a finalement décidé de légaliser des migrants. Ma question portait sur les femmes afghanes. Et vous parliez du droit d'asile avec l'obligation de passer le pas. Et à un moment, ils ont parlé, donc la bonne nouvelle, c'était. Soi-disant bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si c'est concret, mais c'est ma question en fait, était que les femmes afghanes, du fait d'être femmes, pouvaient être accueillies en France. Moi, pour ma part, je n'en vois pas beaucoup arriver, et j'ai l'impression que rien n'est facilité pour les faire venir. Donc en fait, c'est un coup de bluff. En tout cas, ça y ressemble, quoi. Mais est-ce qu'elles ont la possibilité de demander leur demande d'asile depuis alors l'Afghanistan, je crois pas, parce que
l'Iran ou le
Pakistan. Est-ce que c'est réel? Est-ce que
il y a probablement des gens dans la salle qui peuvent répondre à cette question mieux que moi. Simad, non, je sais pas, mais c'est un peu pour les.
Alors, je te redonne le micro.
C'est un peu comme tous les. Mais c'est comme on ouvre en France. Les Syriens, tous. Oui. En fait, les Syriens ne voulaient pas venir en France, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Alors en fait, on a tout préparé pour les Syriens, mais moi je me rappelle à Genève aussi. Je travaillais pour Vivre Ensemble, qui est l'association à Genève, et à Vivre Ensemble, en fait, je parle arabe, je veux des Syriens. Oui, j'ai des Érythréens qui ont besoin. Ah non, mais moi je voulais des Syriens.
Chrétiens.
Alors nous, non, là c'était, il s'appelle la Syrie, pas la Syrie. Mais donc, c'est tous des programmes comme les, en fait, les hotspots ont été construits contre, en fait, le fait de pouvoir relocaliser, c'est ça le terme que vous l'utilisez, des demandeurs, des vrais demandeurs d'asile dans deux pays, dans d'autres pays en Europe. Et bien ça s'est jamais fait, en fait, parce que, voilà. Après, il y a des couloirs humanitaires en Italie qui fonctionnent pas mal pour une poignée de gens, mais qui fonctionnent pas mal, notamment d'Afghanistan. Pour le programme français, mais c'est vrai que c'est ce que le HR, hein, le Haut Commissariat aux réfugiés, fait tout le temps devant l'Assemblée des Nations Unies. Il dit « Ah, j'ai 3 millions de personnes à réinstaller, ça c'est le terme, la réinstallation, à réinstaller qui les veut. » Eh ben, s'il y a 40 ans, il y avait plein de gens qui levaient la main pour les Indochinois, hein, à l'époque. Et là, il n'y a plus personne. Donc, ils continuent à hurler qui veut ces gens qui sont dans les camps de réfugiés, dans les pays limitrophes des pays en guerre, par exemple, et plus personne n'est pas là. Mais. Et puis encore, hein, je veux dire, c'est très très bien si des femmes afghanes peuvent arriver dans de bonnes conditions dans les pays européens, mais tous les autres pays. Et quand, en fait, quand tu es un homme jeune en bonne santé, tu ne coches aucune case.
Ah oui.
Aucune.
À toi, Philippe.
La dernière ?
C'est la dernière.
Je
vous
donnerai la
parole à
Arlette.
Oui.
Si vous étiez membre d'un gouvernement italien, français, suisse, ou commissaire.
Pas français, j'ai pas l'habitude d'être français, non, pas d'accord.
Commissaire européen, quelles seraient vos décisions?
Bon, ben.
Moi, je vu que sur ce quoi je travaille, c'est quand même les morts aux frontières. On sait très bien ce qu'il faut faire pour
ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières.
Abolir les visas.
Ouvrir les frontières. Hein.
Non, mais je vais pas vous faire un problème politique. Mais ça, c'est un truc qui est concret, qui est facile, qui est possible, qui a été fait avant les années 80. C'était possible.
Je pense que on peut remercier fortement. À la fois l'expertise, la clarté et la simplicité de langage, pour nous tous, un grand merci.